Eh bien, on se retrouve avec plaisir, Marie-Ange Kouki, bonjour.
Bonjour Valérie, comment allez-vous?
Dès qu'on vous retrouve, on se sent mieux.
Merci, c'est le mois de mars, c'est bientôt le printemps.
On s'approche du printemps. Vous rappelez votre rôle au sein du, pas du déstressage, hein, pas du déstressage, mais presque. Vous avez études à Bastia, vous êtes spécialisée en thérapie comportementale.
En hypnose, en sophrologie, en PNL, et un centre de formation en psy-hypnose.
Alors aujourd'hui, Marie-Ange, on a parlé beaucoup de l'estime, de la confiance en soi. Nous allons conclure sur l'estime de soi pour commencer un nouveau thème progressif, respecter les besoins de nos enfants, on va parler des enfants, pour renforcer leur confiance et leur savoir-faire.
Tout à fait Valérie. Oui, parce que quelque part, ces enfants ont besoin aussi de confiance, puisque la confiance et l'estime débutent bien dès les premières années. Chaque fois que nous parlons de l'estime de soi, de la valeur que l'on s'accorde, c'est aussi se dire quelque part, j'accepte mes bons côtés, j'accepte chaque partie de mon être, que ce soit mes défauts, mes craintes, mes mauvais comportements, même tout ce dont je ne suis pas
fière.
Il faut
tout accepter.
Il faut tout accepter. C'est ce que je suis et je suis en paix avec ça, puisque je peux m'améliorer, tout simplement.
Vous précisez justement que l'estime de soi, ça dépend que de nous, Marie-Ange.
Ça dépend que de nous.
Et de, aussi de la valeur que l'on s'accorde,
que
finalement.
Que l'on s'accorde,
oui, c'est ça.
Tout à fait.
Alors, question aussi, si malgré tout, nous continuons à douter de nous, ça arrive, hein,
ça
et
arrive.
De nos capacités, malgré tous vos conseils, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, il y a toujours cette astuce pour briser ce cercle vicieux chaque jour, se dire, qu'est-ce que j'ai bien réussi aujourd'hui? Et construire son estime de soi, c'est comme construire sa maison avec des solides fondations. Tout ce que nous construirons sera instable, risque de s'écrouler au moindre vent. Mais à nous de bien la solidifier,
cette maison.
La consolider, tout simplement.
Oui, mais malgré tout, si on doute quand même de nos capacités.
Alors, nous allons focaliser sur le 1% qui est positif, car il y a des centaines de petites choses, des micro-événements positifs dans la journée. Et nous allons penser à tout ce qui s'est bien déroulé dans la journée, tout simplement, et non pas fixer sur le petit truc qui ne s'est pas déroulé comme nous souhaitons.
En fait, c'est bien ça, pour renforcer sa confiance en soi.
Oui, parler sur le comment réussir et non pas pourquoi cela s'est mal passé, tout simplement.
Vous avez quelques astuces à nous proposer pour renforcer cette confiance en soi?
Oui, certaines techniques de sophrologie en relaxation qui peuvent nous aider à calmer le stress, à nous recentrer. Donc c'est intéressant, même dans le milieu professionnel, de respirer, de faire quelques exercices justement de relaxation. Par exemple, bon là nous sommes à l'antenne, les gens peut-être roulent, nous n'allons pas nous arrêter pour inspirer, expirer. Mais je vais vous donner un exemple.
On peut le faire en voiture aussi.
On peut le faire en voiture, oui, au feu rouge, mais il n'y a pas de feu rouge à passer.
Si, quand même.
Quelques-uns.
Non, en ville, il y en a moins. Mais quand même, si on se gare sur un parking, par exemple.
Peut-être. Alors, un exemple. Imaginez, rien que de penser à ce premier rendez-vous avec son employeur, on peut se dire, j'ai chaud, j'ai les mains moites, le corps va s'emballer, le cœur va être un petit peu plus rapide. Donc, plutôt que de présenter un tableau noir de la situation et se dire, est-ce que je suis pas assez bien pour cet employeur, je vais m'asseoir droite, je vais respirer, inspirer. Et chaque fois que mon esprit s'égare, si je suis dans la pièce, je vais fixer chaque détail. Je vais suivre mon souffle. Je vais imaginer que je suis un caméraman derrière une caméra en train de fixer chaque chose pour focaliser mon esprit sur autre chose plutôt que sur ses pensées. Et plutôt que de me tourner vers mon monde intérieur sur mes pensées, éviter de m'emballer, je vais voir ce que je vois et je vais me répéter dans ma tête, ma tête se repose. Et penser à quelque chose de positif immédiatement. Et je vais certainement rentrer avec le sourire dans la pièce quand ce sera mon tour de rencontrer cet employeur.
Alors c'est une technique qui calme et qui favorise l'écoute aussi.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mm-hmm. Oui, puisque l'esprit est beaucoup plus calme. Nous sommes en ondes alpha, donc beaucoup plus aptes à écouter.
Pensez aux ondes alpha, en résumé.
9, 12 hertz.
Donc Marie-Ange, très bien, on va essayer de mettre en pratique tous ces conseils. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à réécouter notre chronique Bella Anima en podcast sur le site d'RCFM, ça fait du bien.
À demain.
On se retrouve demain. À demain, Marie-Ange. Marie-Ange Coux qui revient vers nous tous les jours sur RCFM. Bonjour, Marie-Ange.
Bonjour, Valérie.
On a besoin de prendre le temps, de se déstresser. On continue.
Tout à fait.
Avec vous. Et nous repartons. On a parlé de la confiance en soi. Parlé de l'estime de soi. En résumé, Marie-Ange Coux qui est la confiance et parfois, souvent même, altérée par nos émotions.
Oui, par nos émotions. Je vous ai donné l'exemple hier de ce rendez-vous avec cet employeur. En sortant, on peut se poser la question, quels étaient mes besoins à respecter entièrement? Mais quelque part, le calme et la confiance pour que tout se déroule mieux et faire preuve aussi un petit peu d'humour, rire de soi-même pour dédramatiser les choses.
L'autodérision.
L'autodérision.
À ma gagne.
Tout à fait, la ma gagne. Et les émotions sont des séquences courtes qui interviennent tout le long de la journée. La séquence émotionnelle, elle est rapide, c'est 20 millièmes de seconde. Et le déclencheur externe, eh ben, c'est le cerveau archaïque. Après, il y a la réaction du cerveau limbique qui correspond aux pensées, aux croyances et aux convictions. Et ensuite, il y a l'émotion et la pensée qui entretient l'émotion. Donc l'émotion, c'est un mécanisme qui se trouve à l'origine de l'apprentissage, de la plupart des émotions. Et c'est entre 3 et 6 mois qu'apparaissent la peur, la colère, le rire, la joie. Et entre 12 et 18 mois, la jalousie. Et entre 2 et 5 ans, l'envie et la honte. Voilà, mais ça commence tôt.
Tout petit.
Tout petit. Hein.
Alors la confiance en soi, en résumé, ça renvoie à l'estime de soi dans le mouvement, dans l'action.
Oui. Et dans les apprentissages scolaires, elle est essentielle, indispensable. Et pour aider son enfant, lorsque vous sentez le stress le gagner, apprenez-lui la respiration. Puis vous allez aussi lui apprendre à relâcher toutes les tensions avec des exercices en relaxation ou en sophrologie. Et cette respiration, on peut lui apprendre un exercice et le faire soi-même, par exemple. Inspirer, bloquer la respiration, dire non avec la tête, expirer tout doucement en mettant à nouveau la tête droite et apprendre à dire oui en inspirant et en baissant la tête,
oui.
En descendant le menton contre la poitrine, tout doucement.
Oui, vous le faites, tandis que vous nous en parlez.
Tout à fait. Et se rappeler un petit moment de joie, de bonheur, de cadeau, et ces quelques secondes vont calmer.
Alors qu'est-ce qui va permettre, puisqu'on parle de l'enfant, à un enfant vraiment d'avoir confiance en lui, Marie-Ange?
Alors avant toute chose, je pense que c'est de se sentir écouté, reconnu par ses parents, dans l'écoute active, écouter. Chaque fois qu'un enfant a une émotion, quelque part, c'est un besoin qui n'est pas respecté ou pas reconnu, tout simplement. Et comme je disais auparavant, la confiance, elle se construit dès les premiers mois de la vie. C'est la personnalité des parents, l'attitude, bien sûr après la sociabilisation, l'environnement, mais également le parent. Comment agit le parent? Est-ce qu'il crie? Est-ce qu'il est calme?
C'est important.
Est-ce qu'il se
pose le milieu où on vit?
Oui. Est-ce qu'il se pose, le parent? Un enfant qui pleure, le but, c'est de s'accroupir, se mettre à son niveau, le regarder dans les yeux, l'écouter, plutôt que crier et hurler.
C'est pas la bonne méthode. Vous pouvez développer un petit peu?
Oui. Alors, la confiance intérieure, c'est la première année. La première année, c'est la maman grâce au contact physique avec la mère ou une mère de substitution, à travers le toucher, les sensations. On a un exemple. Au Vietnam, dans les orphelinats, les petites filles plus grandes touchent les bébés, les caressent.
Le lien?
Le lien, les bercent. Donc, quelque part, c'est prendre conscience de ce lien. Ce lien, ce toucher, va permettre d'acquérir un sentiment de tranquillité, de solidité plus tard face aux situations. Et on va minimiser la peur de l'abandon. On se sent mieux avec soi-même parce qu'il y a ce lien qui est créé dès le début.
Et quand la confiance fait défaut, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, quand la confiance fait défaut, bien entendu, c'est un travail sur soi. Plus tard, on peut développer un peu des dépendances affectives, certaines dépendances, certaines addictions.
C'est vrai. Oui, en grandissant. Cette première année est importante donc pour l'enfant, pour qu'il puisse avoir un sentiment de sécurité, de confiance en soi.
Oui, tout à fait. Et pour éviter de se dévaloriser, d'être rejeté, comment dire, pour éviter une tendance à la soumission, ou alors au contraire s'opposer à tout. Donc, quelque part, c'est autoriser l'enfant dès 2 à 3 ans qui commence sa prise d'autonomie. Cette fameuse période du non, vous savez, quand il commence à se détacher de l'autorité parentale, voilà, à affirmer son individualité. Donc, quelque part, il refuse, mais c'est bon qu'il dise non, voilà. C'est ce non qui va lui permettre de guider ses choix plus tard, ses décisions, ses envies, qui va lui permettre de se positionner et avoir beaucoup plus confiance.
Ça renforce notre confiance dès qu'on est quand on est petit, comme ça on se construit, c'est important pour la suite, à travers aussi notre valeur, nos compétences.
Oui, les fameuses compétences, et ça va éviter d'être réprimandé, d'avoir une attitude passive, d'être hésitant. On va agir avec beaucoup plus de cran. Et beaucoup plus de positionnement.
Et de positionnement. En tout cas, important, hein, puisqu'on parle de l'enfant. On va vous retrouver demain, Marie-Ange, à la même heure sur RCFM. Et puis, je rappelle que vous pouvez aussi podcaster notre chronique Belle Anima pour prendre des conseils précieux de Marie-Ange Cook.
Merci.
À demain. Bonne journée. Avec nous sur RCFM, Marie-Ange Cook, et on la retrouve avec plaisir, Marie-Ange.
Et je vous retrouve avec grand plaisir, Valérie, vraiment, sincèrement.
Alors, c'est le moment entre midi et deux. Il y a ceux qui déjeunent, il y a ceux qui sont chez eux.
Ceux qui roulent aussi.
Il y a ceux qui roulent. J'espère qu'ils roulent en nous écoutant, en nous écoutant. Et puis, on peut aussi prendre le temps, prendre de précieux conseils, Marie-Ange. On parle de l'enfant. Depuis mardi sur RCFM, de la confiance de cet enfant, comment on peut la transmettre à nos enfants, à vos enfants. Indispensable de laisser l'enfant aussi poursuivre son autonomie, son petit chemin pour éviter qu'il ait des soucis.
Oui, tout à fait. Son apprentissage dans l'autonomie, quelque part, il a besoin de faire des erreurs cet enfant, il a besoin de dire non, il a besoin de se sentir capable. Et ce niveau est indispensable au développement de nos capacités et permet de rectifier, de découvrir nos limites, de nous dépasser aussi. Donc c'est vraiment des besoins d'autonomie, d'indépendance et le fameux non.
Il apprend à dire non.
Il apprend à dire
tout
non.
Petit.
Tout petit.
Tout cela va lui permettre d'avoir confiance, une confiance dans les autres, dans ses relations, ce petit.
Oui, la confiance sociale, relationnelle, la confrontation à l'autre, donc la fratrie, les cousins, les amis, l'école. Et face à l'autre, l'enfant va chercher à se comparer, s'évaluer, il va également déterminer sa place au sein d'un groupe. Et ce niveau de confiance permet non seulement de développer la sociabilité ainsi que l'aisance au sein d'un groupe, mais également de forger la confiance envers autrui. Ainsi, l'adulte se positionnera avec confiance et osera prendre sa place, quel que soit l'endroit et le moment.
Il aura un socle
plus solide.
Saint-Exupéry disait que l'enfance, c'est le sol sur lequel on marche.
Tout à fait. Exactement. Si demain je vais faire un parcours en barque, avant je vais m'assurer que la barque elle est solide.
Vous nous rappelez aussi, Marie-Ange, depuis le début de ces émissions, que parfois nous créons notre réalité qui n'est pas forcément la bonne par nos pensées, tout simplement. Hein.
Oui, par nos pensées. Alors là, vous allez imaginer un projecteur de diapositives. Chaque instant, une diapo est sélectionnée dans la réserve de notre mémoire. Et notre mental, quelque part, va être projeté dans cet univers. Ces ébauches de pensées qui vont façonner le monde concret. Et notre mental, il est pareil à un arbre. Et les pensées qui les traversent sont pareilles à des oiseaux. Peu importe quels oiseaux se posent un instant sur les branches avant de poursuivre leur voyage. Ce qui compte, ce sont ceux à qui vous permettez d'y faire leur nid et de s'y installer à demeure. Donc à nous de réfléchir au type d'avenir que l'on se prépare avec ses bonnes pensées, ses sentiments. Projeter le positif comme des diapos sur l'écran.
Nos pensées, ce n'est pas forcément la réalité, effectivement. Hein. C'est quelquefois.
Il y a des distorsions, des lectures de pensée. Souvent, nous nous trompons, ce n'est pas ce que nous croyons.
Mauvaise appréciation des choses.
Des choses.
Comment être mieux, quoi, à travers nos pensées.
Oui. Vous avez raison, c'est la pensée juste. Cet examen de conscience personnelle et positive nous permet de cerner où sont nos limites, de les dissoudre. Et les motivations, les idéaux sont la base de tout changement. Si on compare notre mental à un maçon qui bâtit de nouvelles maisons, qui est l'architecte et qui dresse les plans et génère les modèles auquel le mental peut se référer pour construire. C'est nous.
Important, Marie-Ange, de renforcer la confiance, l'estime de soi avec des pratiques en thérapie comme nous le faisons sur RCFM, comportementale, en sophrologie, en PNL,
oui.
Ce qu'on appelle en PNL aussi, oui. Relaxologie ou hypnose.
Tout à fait. Et quelque part, ces outils, par exemple, nous avons des outils pour favoriser le changement de comportement, les ancrages, vous savez, Pavlov, l'ancrage de Pavlov, les expériences de conditionnement, ça peut nous aider à contrôler le flux des pensées, être de meilleure humeur. Et l'esprit conscient peut être comparé à une source qui joue au soleil et qui retombe dans la grande piscine souterraine du subconscient sur lequel elle s'appuie. C'est Freud qui disait ça.
Ah oui, c'est joli ça.
L'esprit conscient peut être comparé à une source qui joue au soleil et qui retombe dans la grande piscine souterraine du subconscient sur lequel elle s'appuie.
Il faut savoir nager, quoi.
Tout à fait. Ou du moins flotter. Et l'état de relaxation aide à mémoriser des ancrages plus facilement. L'ancrage, vous savez, Pavlov donnait, apportait le repas à son chien dans une écuelle avec une clochette. Et un jour, il est arrivé sans l'écuelle, avec la clochette, le chien a salivé.
C'est le fameux réflexe de Pavlov.
Tout à fait. Les madeleines de Proust, les madeleines de son enfance, les odeurs. Vous passez à un endroit, l'odeur d'un cyprès qui vous rappelle.
Ça, c'est joli, les madeleines de Proust.
C'est joli, hein. C'est bon en plus.
Alors, qu'est-ce qui va permettre à un enfant de de renforcer, puisqu'on parle des enfants, petit à petit, et des futurs adultes même, sa confiance. On ne n'est pas confiant, on le devient.
Oui, on le devient, et l'écoute des parents derrière chaque comportement, pour écouter un besoin non entendu. Un exemple, si un enfant se plaint, je vais donner un exemple, et que personne ne veut jouer avec lui dans la cour de récréation, il entendra souvent ce style de réponse des parents. Tu n'as qu'à aller jouer avec Adrien, il est gentil Adrien. Arrête au cinéma, je l'ai regardé tout à l'heure et tu t'amusais comme un fou. Si tu n'embêtais pas les autres, ils auraient davantage envie de te parler. Alors chaque réponse est plus ou moins bienveillante, mais c'est pas entendu par l'enfant. Donc quelque part, plutôt dire à la place, pour que l'enfant soit reconnu dans son émotion, « Ok, personne ne veut jouer avec toi. Tu es triste, personne ne veut jouer avec toi. » Oui, les copains, ils disent « Non, non. » Tu es contrarié que les copains te disent « Non. » Oui, je suis contrarié. Et là, l'enfant voit que l'adulte apporte quelque chose de nouveau, qu'il décode ses sentiments, ses émotions et qu'il est écouté.
On vous retrouve demain à la même heure sur RCFM.
À demain. Belle journée.
Vous pouvez bien sûr podcaster cette chronique Belle Anima sur RCFM. Marie-Ange Jucou, qui on vous retrouve avec plaisir. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour Valérie.
Viva tu e gourne.
Moi aussi.
Voilà. Allez, tu vais moi e gourne. C'est Zabé de Guincourt, Siga et Cousy. Marie-Ange. On parle de l'enfant avec vous cette semaine sur RCFM. Vous avez parlé d'une chose importante. C'est ce qu'on appelle. Alors, qu'est-ce que c'est l'ancrage?
Alors, l'ancrage qui peut se faire en relaxation, en PNL, en auto-hypnose, c'est. L'ancrage, il peut s'activer rapidement. Je vous donne un exemple. Un ancrage, il peut être visuel, quelque chose qu'on imagine de positif. Les ancrages peuvent être auditifs, un nom, une chanson que vous aimez. Ils peuvent être kinesthésiques, c'est-à-dire qu'un ancrage, on a parlé de Pavlov la dernière fois.
Le réflexe de Pavlov.
Mais ça peut être aussi quelque chose de visuel. Imaginez que ce soit un symbole. Ce symbole va vous apporter le calme ou la joie ou la réussite. Ça peut être une chanson qui vous rappelle quelque chose. Ça peut être aussi... comment dire, vous savez, un gris-gris, un bracelet, le fait de toucher sa montre, son bracelet. Vous passez un examen, vous avez fait un ancrage sur le bracelet, vous touchez ce bracelet qui va vous rappeler un moment de calme ou de bonheur. Voilà, ce sont tous des ancrages comme une chaîne d'action inconsciente liée entre elles. Pour se libérer un jour, pour être beaucoup plus calme, beaucoup plus joyeux.
C'est vrai, des fois on a un petit objet qu'on touche comme ça.
Tout à fait.
Oui. Alors,
sans avoir à y penser, rien que de le toucher,
ça fait du bien.
Ça fait du bien.
On parle de l'enfant, j'ai avec vous Marie-Ange. L'enfant, il se sent écouté et compris à quel moment?
Alors, il se sent écouté et compris quand, quelque part, on reformule ce qui se passe. Je vous ai donné l'exemple hier, personne ne veut jouer avec moi. Oui, ok, d'accord, personne ne veut jouer avec toi. Tu es contrarié que les copains te disent non. Oui, je suis contrarié. Alors, c'est vrai que l'adulte n'apporte à l'enfant aucun élément nouveau, mais il reprend simplement les mots, décodant ses sentiments. Et c'est vrai que ça donne une impression bizarre de parler comme ça au début. On se sent presque ridicule. Mais quelque part, l'émotion est entendue et parfois cela suffit à l'enfant que cela se dissipe. Le simple fait de se sentir entendu va dissiper sa tristesse ou trouver une solution à son problème. Il va peut-être partir jouer à présent, puisqu'il a été écouté quelque part.
Il va se sentir mieux.
Il va se sentir mieux.
Alors, on est là pour accepter certaines de ses difficultés, mais aussi pour l'aider, pour trouver les ressources, pour les surmonter.
Oui, parce que tout cela, ça va conditionner le comportement de l'enfant. Pour plus apprécier, l'encourager, sans le juger, sans atteindre la perfection, quelque part, ça va l'encourager.
Il faut encourager l'enfant, lui donner de la confiance.
De la confiance.
Écoutez.
Accompagner.
Marie-Ange, vous nous avez parlé il y a quelques temps de la fameuse pyramide de Maslow. Cette fameuse pyramide, on va réexpliquer ce que c'est. Est-ce que c'est valable aussi pour l'enfant?
Oui, elle est valable aussi pour l'enfant. Et pour se réaliser pleinement, un enfant doit pouvoir satisfaire différents besoins. C'est le psychologue Abraham Maslow, dès 1954, qui a défini et hiérarchisé les besoins par ordre d'importance. Alors, les premiers, bien sûr, c'est les besoins physiologiques. Vous savez, il y a la survie, l'habitat, la nourriture, le toit, le bon sommeil pour l'enfant, le protéger des intempéries, pour l'enfant, s'assurer qu'il a bien déjeuné avant de partir, qu'il a bien dormi, qu'il est bien couvert. Et les besoins de sécurité, la sécurité physique et psychologique, la protection, la sécurité. Et pour l'enfant aussi, lui apprendre à se protéger des dangers de certains prédateurs, des harcèlements, et aussi par exemple, faire la sensibilisation pour l'écologie, des programmes de philosophie pour l'enfant, le soutien scolaire. Maintenant, il y a la méditation dans les écoles. Au Canada, ça fait 20 ans qu'il y a la méditation dans les écoles.
Les élèves méditent. Les enfants, ils se retrouvent un peu.
Tout à fait.
Alors, sur votre échelle, la fameuse échelle de Maslow, vous évoquez aussi un besoin d'appartenir, l'appartenance.
L'appartenance, oui. Alors, la pyramide de Maslow, il y a une théorie de la motivation. Les besoins d'appartenance, c'est l'amitié, le groupe, la reconnaissance des adultes. Et pour l'enfant, c'est l'apprentissage, créer des groupes de travail, favoriser la pédagogie des projets, choisir un thème. Par exemple, un journal de bord pour ses enfants, si vous les avez en atelier, par exemple. Et après, il y a aussi les besoins d'estime, la confiance, l'estime, le respect des autres, l'estime personnelle. Et pour l'enfant, donner des récompenses, féliciter sur les qualités, sur les actions, créer une boîte à récompenses, par exemple.
Ah oui, c'est pas mal. Et vous terminez aussi avec le besoin de s'accomplir. C'est important, ça.
Le besoin de s'accomplir, c'est étudier, créer, inventer, pour avoir plus de compétences, la créativité. Et pour l'enfant, c'est, par exemple, déléguer des tâches, encourager, féliciter ses élèves qui ont un besoin de s'épanouir, le rire, les jeux.
Vous pouvez nous dire, vous, Marie-Ange, quels sont réellement les besoins en général des enfants?
Alors, quelque part, c'est aussi... tester son degré d'estime de soi et de confiance à travers des jeux. Et pour cela, je vous invite à dessiner une roue à faire avec vos enfants et petits-enfants.
Oui, une roue.
Une roue, oui, une roue avec
au crayon.
18 segments pour évaluer les besoins de l'enfant. Vous savez, comme un grand camembert avec 16 segments.
Et à l'intérieur
Et à l'intérieur, nous mettrons, par exemple, besoin de mouvement. Préparez une feuille.
Et voilà, chers auditeurs, une feuille avec une roue et vous mettez des cases comme ça. Et puis, on se retrouve pour justement pas tourner la roue des
la
fêtes.
La fortune.
Une chronique à podcaster sur notre site Bella Anima.